Bonjour la famille de Dieu, c'est ce que nous sommes, une famille. Avant de connaître Dieu, Dieu était notre créateur et nous étions ses créatures. Mais quand nous avons donné notre vie à Dieu, il est devenu notre Père et nous sommes devenus ses enfants. Alors c'est ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, c'est l'amour de Dieu, ça nous dépasse, mais il ne faut pas chercher à comprendre. Il y a des choses qui ne se comprennent pas dans la Bible, mais qui s'acceptent et qui se croient. Ça fait quelques semaines que nous étudions les paraboles de Jésus. Avec David, on a vu la parabole des deux fils, la parabole du semeur et la parabole de l'ami opportun. Il y a 15 jours, avec Audrey, on a étudié la parabole du péager et du pharisien. Et la semaine dernière, à nouveau, David nous a parlé de la parabole du riche fermier. Ce qui nous fait 6 paraboles pour le moment. Et aujourd'hui, on va voir la 7e. Il y en a d'autres. Savez-vous combien de fois le mot « amour » est-il écrit dans la Bible? En fait, il apparaît 316 fois dans le Nouveau Testament et 751 fois dans toute la Bible. Il existe plusieurs sorte d'amour dans la Bible, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un amour en particulier, l'amour de Dieu. Celui que Paul décrit dans 1 Corinthiens 13. Il se distingue des autres formes d'amour par sa nature morale et sa force de caractère. Il se manifeste toujours en acte. Il s'agit d'un choix qui engage notre volonté. De la disposition volontaire de faire passer le bien-être des autres avant le nôtre. C'est cet amour qui a été clairement été manifesté à la croix. Il n'y en a pas de plus grand, de plus vrai et de plus beau. On va prendre un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Vous pouvez prendre vos bibles ou vos téléphones, hein. C'est pas à l'écran parce que le texte est trop long. Luc chapitre 10, au verset 25. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu ? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais « qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. » De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme et en le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?» C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Le titre de ce message, hein, sur la route de l'amour. Nous allons voir deux points dans ce message. Premier point, qu'est-ce qu'aimer selon Dieu? Et le deuxième point, comment manifester l'amour de Dieu? Tout d'abord, nous allons voir à quelle occasion Jésus introduit la parabole dans la discussion. Avant de raconter celle-ci, le texte précédent nous parle des 70 disciples qui reviennent d'un temps d'évangélisation et racontent à Jésus tous les miracles qu'ils ont accomplis en son nom et les démons qu'ils ont chassés. À l'écoute de leur témoignage, Jésus leur fera remarquer que ce n'est pas tant les actes prodigieux qu'ils ont accomplis qui doit les réjouir, mais le fait que leur nom soit inscrit dans les cieux. Et c'est là qu'un docteur de la loi pose la question de savoir « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» D'où s'ensuit cette conversation. Dans le premier verset de la parabole, il est dit que le but de la question posée à Jésus par le chef religieux était de lui tendre un piège. Tout d'abord, le chef religieux cherche une occasion de confondre Jésus par ses paroles. Mais Jésus, loin de se laisser surprendre ou déstabiliser, va lui poser lui aussi une question. Vous remarquerez la façon dont Jésus répond. Il le fait par une question. Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Ce n'est pas la première fois que Jésus utilise cette façon de faire. Rappelez-vous la question concernant l'adultère dans l'évangile de Marc. Est-ce qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme? Et Jésus de répondre, quel est le commandement de Moïse? Il fera de même avec la question posée par le chef religieux, il le renvoie à la parole. Parole que le chef connaît très bien, mais qui malheureusement n'est pas toujours mise en pratique. Et surtout, parole à laquelle il ne pouvait s'opposer. Puis vient l'autre question du chef religieux, mais qui donc est mon prochain? Derrière cette question du chef religieux, il cherche à paraître juste aux yeux de Jésus et de ceux qui l'écoutent, mais aussi pour pouvoir se dégager de ses responsabilités. Étant chef du peuple, il avait la responsabilité de conduire le peuple vers Dieu et de le garder dans l'obéissance à la loi. Au travers de cette question de savoir qui est son prochain, le chef religieux essaie de creuser la parole pour savoir qui est ce prochain dont parle Jésus. Il cherche à se donner raison sur sa façon de faire habituelle, mais qui n'était pas en accord avec la dimension de l'amour que Dieu attendait de son peuple. Il pensait juste être obéissant à la loi, mais sans amour. Il cherche à fixer des limites, à calculer le minimum obligatoire pour être en règle avec Dieu. Alors Jésus lui met un miroir en face de ses yeux pour lui montrer que l'amour, selon Dieu, ne calcule pas. L'amour de Dieu est sans limite et nous le voyons à la croix. Jésus veut l'amener à prendre conscience qu'on ne peut pas gagner sa justice par une obéissance d'apparence et que lui, comme chacun, a besoin de la grâce de Dieu. Il n'est pas difficile en réalité de savoir qui est notre prochain, car c'est toute personne que nous sommes susceptibles de rencontrer, qui fait partie de notre famille, de notre entourage, etc. Le prochain correspond au quiconque dans Jean 11, 25. Quiconque vit et croit en moi vivra même s'il meurt. Le chef le savait, mais dans son manque d'amour, il essaie de refermer le champ que Jésus ouvre en disant le prochain et qui englobe tout un groupe de personnes et même les païens, qui, aux yeux du peuple juif, n'était pas considéré. Mais le cœur de cet enseignant est fermé à cette parole qui certainement le reprend dans sa conscience. Alors, Jésus va se servir d'une histoire, une parabole, pour aider le chef religieux à y voir plus clair, mais surtout afin qu'il cesse de se chercher des excuses et prenne ses responsabilités. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il y a une distance d'à peu près 30 kilomètres entre Jérusalem et Jéricho. C'est un long chemin isolé et dangereux. Ce chemin, à l'époque, était réputé pour être fréquenté par les brigands, qui attaquait les voyageurs. Et ce n'est pas un hasard si Jésus, dans son récit, parle de ce chemin-là. Puis Jésus décrit en détail l'état de ce malheureux tombé entre les mains des brigands. Il est dépouillé, couvert de blessures et laissé pour mort. C'est un constat plutôt sérieux, une situation tragique. On ne parle pas d'une simple écorchure. Puis Jésus poursuit son récit en parlant d'un prêtre qui descend par la même route. Il le voit. Il n'est pas dit « il le regarde ». Ce n'est pas la même chose. C'est comme parfois nous pouvons dire « j'ai entendu », cela ne veut pas dire que j'ai écouté. Voir peut laisser indifférent. Regarder demande de l'attention, un intérêt. Cela demande que l'on s'arrête, que l'on considère la chose ou la situation. Ce n'est pas ce que le prêtre a fait. Il est même dit qu'il s'en est écarté. S'en écarter, ce n'est pas seulement s'éloigner, c'est se préserver, ne pas vouloir se mouiller, c'est exclure d'eux, c'est laisser de côté, négliger. Alors pourquoi une telle attitude de la part des deux religieux? La loi religieuse de l'époque disait « si quelqu'un touche un cadavre, il sera impur ». On pourrait croire que le prêtre obéit à la loi, mais en réalité il pense à lui et non pas au pauvre blessé. Il se cache derrière une observance religieuse au détriment de l'amour pour son prochain. Un prochain qui, je le rappelle, est à demi-mort et souffre. Mais ça, le prêtre ne le voit pas car il n'a pas pris la peine de vérifier dans quel état il était. Un autre personnage entre en scène. Cette fois-ci, c'est un lévite. Le lévite était soumis à la loi mosaïque, de même que le prêtre. Son attitude sera la même. Pourquoi Jésus cite-t-il ces deux personnes religieuses? Parce que, étant des responsables du peuple, ils étaient censés être un exemple pour le peuple juif. Et comme il s'adresse à un chef du peuple, il veut l'amener à prendre conscience de sa responsabilité en tant que tel. Les deux auraient dû exercer la miséricorde et la compassion, mais ils ont passé outre. Puis Jésus évoque un autre personnage auquel je pense le chef religieux ne s'attend pas, le Samaritain. Alors j'ouvre une parenthèse. David, notre pasteur, me faisait remarquer que le titre de bon Samaritain n'apparaît pas dans la Bible d'origine. Il a été rajouté dans nos Bibles modernes au-dessus du paragraphe. En fait, c'est simplement parce que l'histoire a tellement marqué les esprits qu'on l'appelle aujourd'hui le bon Samaritain. Jésus, lui, disait simplement un Samaritain. Mais ce sont ses actes qui montrent la bonté de son cœur. Audrey, tu peux mettre l'image ? Le Samaritain, qui aux yeux du peuple juif était considéré comme un païen, un ennemi, même scénario. Il descend de Jérusalem à Jéricho, il suit la même route que le prêtre et le lévite, et lui aussi voit le blessé sur la route. Mais la différence entre lui et ces deux hommes, c'est que son cœur s'émeut de compassion en le voyant. Il s'approche, il ne redoute ni les règles religieuses, ni le danger qu'il pourrait y avoir. C'est son cœur qui lui dicte ses actes. Il observe le malheureux et constate l'état dans lequel il se trouve. Il prend son temps. Il avait certainement des choses à faire, un emploi du temps à respecter, mais il laisse de côté ses obligations pour secourir cet homme qui se trouve sur son chemin. Puis, il sort de son sac de quoi soigner ses blessures. Il utilise de l'huile et du vin. Le vin, à l'époque, était utilisé pour désinfecter et l'huile pour apaiser, adoucir. Il ne se dit pas que s'il le fait, il ne va plus rien lui rester à lui. Non, il ne calcule pas, il ne compte pas. Il fait ce qui est nécessaire. Ensuite, il charge l'homme sur sa monture. Ça n'a pas dû être facile. Un corps dans cet état, à demi-mort, qui ne se tient plus, imaginez ce que ça a dû être de le mettre sur sa mule. Et puis, dans sa solitude, il va le conduire dans une auberge, où il le remettra aux soins de l'aubergiste, en lui recommandant de faire au mieux pour lui. Quand même, il devrait débourser davantage, car cela a dû lui coûter de l'argent pour la chambre, la nourriture, mais pourtant, il n'hésite pas à rajouter en cas de besoin. On voit par son attitude qu'il se soucie du blessé, qu'il fait le maximum et qu'il est conduit par l'amour, alors que ce pauvre malheureux, en fait, il ne le connaît pas. Je vous fais une liste de ce qui s'est passé. Il marche sur la même route que les deux personnes précédentes. Il voit, il s'approche, il prend le temps. Il se met en peine de se blesser. Il écoute son cœur. Il passe outre son emploi du temps. Il passe outre ses obligations. Il utilise ce qui lui appartient pour le soigner. Il le monte sur sa monture et lui marche à pied. Il le transporte à l'auberge. Il prend une chambre pour lui. Il pourvoit à ses besoins. Et il est prêt à dépenser plus s'il le faut. Et arrive la question de Jésus au chef religieux, lequel des trois s'est montré le prochain frappé par les brigands? Et le chef, confondu devant cette parole qui l'oblige à répondre, c'est celui qui s'est montré miséricordieux. En fait, c'est celui qui a manifesté l'amour véritable. Et c'est cet amour que Dieu recherche dans le cœur de ses enfants. Le deuxième point, comment manifester l'amour de Dieu? Eh bien, c'est simple, Jésus demandera, eh bien, va et agis de même, à la fin du verset 37. Jésus ne fait aucun reproche au chef religieux. Il se contente de réveiller sa conscience. Il l'incite à prendre exemple sur une personne qui, à ses yeux, ne valait rien, mais qui, à l'inverse des deux représentants de la loi, a manifesté l'amour de Dieu. C'est oublier lui-même pour ne voir que le besoin qui était devant lui. Alors, comment appliquer cela dans notre vie aujourd'hui? Nous ne rencontrons pas souvent des blessés par des bandits sur notre route, mais il existe d'autres sortes de blessés et parfois des besoins très simples autour de nous. Des voisins avec un besoin de coup de main pour le jardin, besoin de quelques heures de ménage pour une voisine qui est malade, accompagner une jeune maman épuisée par des enfants en bas âge, visiter une personne seule, prendre du temps pour écouter une âme en peine. Tant d'opportunités nous sont données et Dieu lui-même a préparé des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions, comme le dit Paul dans son épître aux Éphésiens. Comment trouver du temps dans nos agendas déjà surchargés? Cela demande une direction, une organisation que Dieu pourra nous aider à mettre en place. Peut-être ralentir sur certaines choses secondaires, redéfinir nos priorités, laisser de côté ce qui n'est pas essentiel, mettre en avant l'amour que nous sommes appelés à manifester dans nos familles, dans notre entourage, à l'église et à l'extérieur. Ça ne sert à rien d'aller faire des prouesses à l'extérieur avec d'autres personnes, il faut commencer déjà par la famille, nos enfants, nos conjoints, nos bien-aimés. Commençons par là déjà, et après on pourra faire autour. Vous allez me dire, mais on ne peut pas tout faire. Non, mais on peut faire une petite chose de temps en temps. Et même Dieu ne nous demande pas l'impossible. Quelqu'un a dit, nul ne peut tout faire, mais nous pouvons tous faire quelque chose. Et Dwight L. Moody dira, Dieu n'attend pas l'impossible de vous, il veut que nous attendions l'impossible de lui. C'est lui qui nous permettra de faire ce que nous croyons ne pas avoir le temps de faire, qui nous donnera le courage de l'accomplir. Il nous a dotés de dons, de talents, pour que nous les mettions à son service et au service de notre prochain. Et c'est également Dieu qui veut remplir notre cœur de son amour afin que nous le manifestions. Et nous avons ce texte que vous connaissez très bien dans Matthieu chapitre 25, verset 34. ou parfois il faut savoir s'arrêter et méditer, parce qu'on les connaît tellement bien ces textes et qu'on passe, on glisse dessus. Au verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Et au verset 40, le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Si d'un côté nous sommes appelés à ressembler au bon samaritain, d'un autre, nous sommes tous, ou nous avons tous été, comme le malheureux du chemin. Chacun d'entre nous, nous avons été blessés par le grand brigand de nos âmes, qui nous a laissés à demi-morts sur la route de notre vie. Et Jésus a été pour nous le bon samaritain par excellence. Il s'est approché de nous, il n'a pas été rebuté par notre aspect, il n'a pas eu peur de se souiller à notre contact, il a pansé nos blessures, il nous a portés sur ses épaules, il a payé de sa vie pour notre complet rétablissement. Autrement dit, il nous a aimés véritablement, totalement, sans aucune retenue, sans aucun jugement et sans limite. Jésus s'est complètement oublié. Il a mis de côté sa gloire, son statut de Dieu tout-puissant, son honneur. Il a soigné nos blessures que les circonstances et le péché nous avaient infligées. Il a répondu à l'appel de son Père pour sauver des pécheurs perdus. Et c'est à la croix qu'il a manifesté son amour suprême. Il n'a reculé devant rien ni personne. Pour conclure, si nous demeurons dans l'amour de Dieu, nous porterons du fruit qui se manifestera autour de nous et cela se verra. Voyez l'amour parfait qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De la même manière, soyons remplis d'amour et accomplissons les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Paul dira, « S'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Et c'est Mère Teresa qui a dit, « Ce n'est pas la quantité de choses que vous faites qui compte, mais l'amour que vous y mettez. » Audrey, tu peux mettre la photo, s'il te plaît? Alors, cette célèbre photo, enfin là, vous avez l'image hein, qui a été tirée de la vraie photo. Ça montre un jeune garçon de 10 ans attendant son tour devant un crématorium de Nagasaki après le bombardement atomique en 1945. Et il porte son petit frère décédé sur son dos. Un soldat remarqua cela, lui demanda de le descendre afin de pouvoir mieux courir. Le petit garçon lui répondit, « Il n'est pas lourd, c'est mon frère. » Quand le soldat entendit cela, il fondit en larmes. Ce soldat s'appelait Joe O'Donnell. C'était un photographe et un marine américain qui documentait les ravages survenus pendant la guerre. Depuis lors, cette image est devenue un symbole d'unité dans le Japon. Laissons ceci inspirer notre quotidien. Il n'est pas lourd, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et quelqu'un a commenté cette histoire en disant, s'il tombe, relève-le. S'il est fatigué, transporte-le. S'il a fait des erreurs, pardonne-le et essaie de supporter ses égarements. Aussi, si le monde semble lui tourner le dos, prends-le sur le tien et transporte-le car il n'est pas lourd, c'est ton frère, c'est ta sœur. Jean, dans l'Apocalypse, a écrit « J'entendis du ciel une voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ce ne sont pas nos œuvres, bien sûr, qui nous sauvent. Seul le sacrifice de Christ. Mais nos œuvres nous accompagnent et elles nous suivent. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Dans Matthieu 10. nous avons sûrement un verre d'eau froide à donner à quelqu'un qui en a besoin. Ce matin, je sais qu'il y a des bons samaritains dans l'Église, j'en connais, et je bénis Dieu pour cela. Et j'encourage chacun à agir comme le samaritain. Mais il y a aussi parmi nous des nombreux blessés que le grand brigand de nos âmes a laissés sur la route à demi-mort. Et pour cela, je voudrais qu'ils sachent que Jésus, notre bon samaritain, est prêt à les secourir, à les porter sur ses épaules, à les remettre sur pied et à se charger de leur vie. Aucune vie, si brisée soit-elle, ne saurait laisser pour compte si Jésus s'en charge. Il a plus que de l'huile et du vin pour raccommoder nos vies. Alors, laissons-le nous prendre sur sa monture et prendre soin de nous. Pour ce qui concerne ce que cela peut coûter, il a déjà payé de sa vie. Amen. Et avant de prier, je vais prier et après on pourra écouter un chant. C'est un vieux chant, il y en a eu beaucoup ce matin, mais soyez pas déçus, parce que dans les vieux chants, les paroles parfois sont très profondes, et ce sont les paroles qui comptent. Seigneur, je te remercie d'avoir été ce bon samaritain pour chacun d'entre nous. Nous étions tous perdus sur ce chemin de la vie, sur cette route, Seigneur, blessés par le brigand de nos âmes, Seigneur, qui a tout fait pour nous mettre à terre, nous dépouiller. Mais tu es venu, tu es passé sur cette route, tu t'es arrêté et tu as pris soin de nous. Tu nous as accordé le pardon et le salut, Seigneur, de nos âmes. Je te remercie pour cela et je te prie afin que nous puissions tous devenir des bons samaritains à l'image de cette parabole, que nous sachions nous arrêter sur la route des autres, nous laisser nous-mêmes de côté pour voir les besoins des autres, Seigneur. C'est à ça que nous avons été appelés. Et c'est ce que Jésus a fait quand il est venu sur cette terre. Je te remercie pour ta parole, Seigneur. Cette merveilleuse parole, Seigneur. Que nous puissions la mettre en pratique dans notre vie, au nom de Jésus. Amen.